journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, y aura-t-il assez de soignants pendant les vacances de la Toussaint? Le gouvernement leur promet une belle somme pour renoncer à leur congé, mais la fatigue supplante les questions d'argent, vous allez l'entendre. Des vacances au vert pour ceux qui ont la chance de partir, on les attend comme on les redoute dans les régions épargnées par le virus. Et avec le couvre-feu, la politique des tests et le pendant de la lutte anti-Covid, reportage sur les tests antigéniques, ces tests rapides déjà pratiqués dans certains EHPAD. Dans ce journal aussi, les entreprises soumises à un nouveau protocole sanitaire à partir de la semaine prochaine. Le chirurgien Le Squarneck et ses 312 victimes comptabilisées par la justice. L'erreur fatale de la Ligue de football qui n'a pas demandé de garantie bancaire à Mediapro. Et dans 20 minutes, Nicolas, c'est vendredi. Littérature dans le grand entretien, littérature américaine évidemment.
Et oui, avec François Bunel, nous recevons aujourd'hui un phénomène littéraire. Elle s'appelle Brit Bennett, elle a 30 ans. Elle publie en cette rentrée L'autre moitié de soi, c'est aux éditions Autrement.
Et à la fin du journal, une voix à découvrir, celle de la soprano égyptienne Fatma Saïd, frisson garanti.
France Inter.
Retour avant minuit, comme Cendrillon ce soir, début du couvre-feu pour presque un tiers des Français. Et à partir de demain, c'est à 21h qu'il faudra être rentré. Les effets de ce confinement de nuit ne se feront pas sentir avant au moins 15 jours. En attendant, 30 000 nouveaux cas positifs ont encore été enregistrés hier et plus de 1 700 personnes sont hospitalisées en réanimation. Alors pour faire face à la vague, Jean Castex incite les soignants à annuler leurs vacances de la Toussaint qui commencent ce soir avec une indemnité de 110 à 200 euros brut par jour pour ceux qui accepteront de renier leur congé. Mais l'argent ne fait pas tout, Véronique Julia.
On arrive à la joindre hier, juste après la manifestation des soignants sous les fenêtres du ministère de la Santé. Barbara est infirmière aux urgences d'un grand hôpital parisien et membre du collectif Interurgence. Pour elle, ce geste financier est presque une blague. Les sous-effectifs permanents, le choc de la première vague, le retour ensuite des malades chroniques non soignés au printemps et maintenant l'arrivée de cette deuxième vague. Pour Barbara, le vrai sujet, c'est la fatigue. L'argent, dit-elle, n'est même plus l'enjeu.
Quand les gens sont épuisés, c'est certainement pas 100 euros qui vont changer la donne, quoi. Quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. On peut peut-être annuler un jour, deux jours, mais à un moment, il faut se reposer.
Quelques centaines d'euros, c'est une forme de reconnaissance, bien sûr, mais c'est bien plus tôt et beaucoup plus qu'il fallait investir pour motiver les troupes, renchérit Bérangère. Infirmière en réanimation à Créteil, elle ne renoncera à ses congés, dit-elle, que si on l'y oblige.
En fait, ils veulent nous faire taire avec cet argent. Mais dès que ça ira mieux, plus aucune mesure ne sera prise sur le fond. La charge mentale que nous avons tous en réanimation pour la deuxième vague, elle est monstrueuse. On ne nous a pas donné tout ce qu'il fallait pour être dans des conditions optimales pour y aller, alors qu'on aurait eu le temps de se préparer. On n'a absolument pas envie d'y aller.
Dans le service de réanimation de Bérangère à Créteil, où on s'occupe des patients les plus lourds, il faut théoriquement une infirmière pour deux patients. Faute d'effectifs, le service tourne en ce moment à une infirmière pour trois patients.
Véronique, Julia, et pour ceux qui partiront en vacances en provenance des métropoles sous couvre-feu, s'attendra à quelques réserves de la part des locaux dans les stations balnéaires. À l'île de Ré, par exemple, on se réjouit autant qu'on s'inquiète de l'arrivée des touristes. Julien Fleury l'a constaté sur place dans un restaurant.
Nathalie tient depuis 5 ans le bistrot du Baraquet dans le petit hameau de la Noue à Sainte-Marie-de-Ré. Le feu vert au tourisme pour la Toussaint, forcément une bonne nouvelle.
On parle que de ça en fait, hein. On est vraiment en période creuse là, donc la Toussaint c'est 10 jours importants, quoi.
Soulagement mêlé d'une pointe d'angoisse, et si cet afflux de touristes venus de toute la France apportait aussi le coronavirus?
Ce sont quand même des zones qui sont rouges, donc on va avoir Bordeaux, Nantes, Paris, donc je pense que ça va forcément bouger un peu. On n'est pas à l'abri de fermer après.
Une inquiétude tenace sur l'île de Ré depuis le confinement que plusieurs milliers de Parisiens avaient passé dans leur résidence secondaire sur l'île, sans aucun impact sur l'épidémie, mais le combat n'est jamais gagné pour Nathalie.
Il y a du gel hydraulique sur les murs, dans les toilettes, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent. Même les gens qui se lèvent sans masque, on leur dit, est-ce qu'il faut vous mettre masqué? Il faut jouer un peu la police, quoi.
Mais attention, ne faites pas dire à cette gérante de bar-restaurant qu'elle est anti-parisien.
On a besoin d'eux pour vivre, et puis j'ai plein de copains parisiens, je suis contente de les voir.
Alors pour des vacances sereines, Nathalie n'espère qu'une chose, un maximum de soleil.
Ce serait génial, parce que ça veut dire dehors, quoi. Ça atténue un peu la peur, et ça fait un peu plus de monde aussi, parce que l'intérieur, ça restreint, hein. On enlève une table sur deux. Moi, j'ai 40 places assises, je vais passer à 25. C'est vite vu, quoi.
Le soleil, également gage d'affluence, car plus que jamais cette année, les réservations sur l'île de Ré se font au tout dernier moment.
Des réservations et des annulations de dernière minute.
Et oui, ce week-end sera le dernier avant peut-être 6 semaines pour se marier. Dernière dérogation avant l'interdiction formelle des festivités. Marine et son compagnon devaient célébrer leur union le 24 octobre après avoir déjà annulé la fête au printemps.
À 10 jours du mariage, on a dû annoncer de nouveau à nos invités que ce n'était pas encore cette fois qu'on allait se marier. Tous les fournisseurs, tous les producteurs, etc. Il fallait repousser leurs prestations. On est plus désolés pour eux que pour nous, hein, parce que c'est du chiffre d'affaires en moins. Et en fait, ça nous a beaucoup fait relativiser sur la météo, le nombre de bouquets de fleurs à prévoir ou le placement des invités selon une logique imparable, etc. Mais sur l'échelle des problèmes, les vrais problèmes, j'ai envie de dire que ça occasionne pour des millions de personnes, c'est pas non plus la fin du monde.
Ouais, on croise les doigts. Marine, interrogée par Emmanuel Grabet, a reporté son mariage à la Toussaint 2021. La mesure avait pris fin le 1er septembre. Plus de chômage partiel pour les femmes au troisième trimestre de leur grossesse. Pour les personnes obèses ou pour celles qui ont des antécédents cardiovasculaires entre autres. Elles vont pouvoir de nouveau en bénéficier le temps que le gouvernement fasse évoluer son décret sur les critères de vulnérabilité. Le Conseil d'État l'a suspendu hier. Et dans les entreprises, il va falloir affiner les mesures anti-Covid. Un nouveau protocole sanitaire sera publié aujourd'hui par le ministère du Travail pour entrer en vigueur la semaine prochaine. De quoi s'agit-il, Hélène Philly ?
La question du télétravail d'abord. Le gouvernement ne s'est pas décidé à réclamer 100% de travail à domicile, mais 2 à 3 jours par semaine. Le nouveau protocole renvoie donc au dialogue social dans chaque entreprise pour trouver le bon équilibre, aux employeurs de définir un nombre de jours minimal par semaine pour les postes qu'ils permettent, en accord avec les représentants du personnel. La règle des 6 à table bouscule aussi la restauration collective. Il en a été question au cours de la réunion de préparation avec les partenaires sociaux. Tables séparées ou disposées en quinconce à la cantine, il faudra sans doute par endroit revoir les dispositions. Et puis les partenaires sociaux ont pu faire part des remontées qu'ils avaient du terrain, de la difficulté de gérer les cas contacts notamment. Les employeurs doivent se référer à plusieurs textes différents. Les syndicats ont donc demandé une fiche résumant les informations et la marche à suivre pour compléter le protocole. Ils ont aussi réclamé la suppression du jour de carence qui, disent-ils, incite parfois les gens à aller travailler même s'ils ont des symptômes. Supprimé pendant le confinement, il avait été rétabli avec la fin de l'état d'urgence le 10 juillet dernier.
Y aura-t-il une dérogation pour les spectateurs, ceux qui vont au théâtre ou au cinéma et qui pourraient rentrer chez eux juste après 21h ? Roselyne Bachelot plaide pour, dans Le Parisien ce matin, pour que les films et les spectacles puissent se terminer à 21h, les billets servant de justificatif aux spectateurs.
On en parle, Florence, depuis des semaines, il est 8h08 et on va encore les attendre quelques semaines.
Les tests antigéniques plus rapides que les tests PCR, ils font partie de la nouvelle politique de dépistage du gouvernement. Le grand public n'y a pas encore accès, mais on les trouve déjà dans 80 EHPAD d'Île-de-France. Reportage dans une maison de retraite du groupe Corian à Lompon-sur-Orge dans l'Essonne, signé Hélène Chevalier.
Vous détendez ?
Ouais.
Cette aide-soignante a beau en être à son 4e test en 2 mois, l'écouvillon dans le nez, c'est toujours aussi désagréable. Car la façon de prélever pour un test antigénique est la même que pour un PCR, mais le résultat est beaucoup plus rapide, 30 minutes. Il fonctionne un peu comme un test de grossesse, explique Andrea, élève infirmière réquisitionnée pour les prélèvements.
On a des réactifs qui vont réagir à la protéine de la Covid-19. Donc si le test est positif, on aura 2 barres, et si le test est négatif, on aura une seule barre qui est la barre de contrôle.
En 3 heures, les 90 salariés de l'EHPAD sont testés, tous négatifs, un soulagement pour Sarah, la responsable de l'hébergement.
Le fait de l'avoir de suite, ça va nous permettre de casser les transmissions du virus.
La rapidité, c'est bien tout l'intérêt de ces tests antigéniques, explique le virologue Jean-Michel Pavlotsky de l'hôpital Mondor de Créteil.
Globalement, leur sensibilité par rapport à la PCR est de l'ordre de 60%. Et en fait, ils détectent bien les sujets qui sont les plus contagieux, donc ceux qui doivent être isolés de façon urgente.
Le directeur adjoint de l'EHPAD, Florent Yafil, y voit, lui, la possibilité de moins isoler ses résidents.
Pour un repas auprès d'un proche, une sortie, derrière, le coup près, c'est 7 jours d'isolement minimum. Si demain, les résidents, on pouvait leur faire un test rapide, par exemple quand ils vont à leur famille le week-end et qu'ils reviennent, les durées d'isolement seraient beaucoup plus courtes.
C'est aussi moins de personnel absent dans l'attente du résultat d'un test.
Reportage d'Hélène Chevalier. Ailleurs en Europe, la Pologne s'apprête à durcir ses restrictions à Varsovie. L'état de la pandémie sur le continent est très préoccupant, dit l'OMS. En Suisse, un canton rural est devenu l'un des clusters les plus virulents d'Europe après un concert de yodel fin septembre. Voilà, ces vocalises alpestres ont fait monter le taux de positivité des tests à 50% dans la région. Effectivement, on projette beaucoup quand on yodel. Le remdesivir n'a pas ou peu d'effet sur le Covid. Conclusion d'une étude menée par l'OMS. Donald Trump a pris cet antiviral du laboratoire américain Gilead lorsqu'il était malade il y a 15 jours. Et c'est à cause du Covid du président que le débat d'hier soir n'a pas eu lieu aux États-Unis, remplacé par un duel à distance entre Trump et Biden à un peu plus de 2 semaines de la présidentielle. Chacun sur une chaîne de télé à la même heure. Trump s'est agacé sur la gestion de l'épidémie. Biden est resté placide. Michel Fournier est toujours aussi évasif cette nuit à Guermantes lors de la reconstitution de l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Confronté à son ex-femme Monique Olivier qui a répété ses accusations face à lui, le tueur en série s'est contenté de lever les yeux au ciel.
Et lui ne se souvient pas bien non plus, Florence, de ce qu'il a fait.
Le chirurgien Joël Le Squarnec, mis en examen hier pour viol et agression sexuelle, la justice Margot Steve a retenu 312 victimes.
Des victimes qui avaient en moyenne 11 ans à l'époque des faits, des petits garçons dans un peu plus de la moitié des cas. Pour 2/3 des faits, il s'agit d'agressions sexuelles, pour le dernier tiers de viols commis dans l'écrasante majorité des cas en Bretagne, mais aussi à Loches en Indre-et-Loire et à Jonzac en Charente-Maritime entre 1986 et 2014. Des faits parfois très anciens donc, et c'est l'un des problèmes qui s'est posé à la justice. Une 30aine de victimes n'ont pas pu être intégrées à la procédure, soit parce que les faits était trop ancien, soit parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour les prouver. Reste ces 312 victimes sur lesquelles un juge d'instruction va poursuivre désormais le travail. Une enquête est aussi ouverte en parallèle pour savoir si des personnes ont pu couvrir les agissements du chirurgien dans sa famille ou dans les hôpitaux.
Et hier, c'est aussi un prêtre qui a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 19 victimes en Vendée et en Charente-Maritime. L'homme appartient à la fraternité Saint-Pidis, connue pour son traditionnalisme extrême. Verra-t-elle un jour la couleur de cet argent promis par Mediapro, la Ligue de foot professionnelle qui avait vendu les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour 800 millions d'euros au groupe espagnol? Il ne paye plus ses échéances depuis la rentrée, veut renégocier. C'est un groupe endetté que la Ligue a mis en demeure de payer hier. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Avec cette affaire, c'est tout le financement du football professionnel qui est fragilisé. Et vous avez enquêté, Emma, pour vous apercevoir que l'attribution des droits à Mediapro en 2018 relève au minimum de l'amateurisme.
Oui, parce que ce qui est pointé du doigt depuis une semaine, moqué même, c'est la fameuse garantie bancaire que la Ligue n'a jamais demandé à Mediapro et qui la prive aujourd'hui de réels moyens de pression. Sauf qu'en creusant auprès de responsables du football et d'audiovisuel, eh bien on se rend compte qu'elle n'a jamais été exigée pour personne en 35 ans d'accord de diffusion à la LFP, ni à Canal+, ni à beIN Sport, ni à Orange. Alors bien sûr, c'est contraignant. Une garantie bancaire pour Mediapro, ça voudrait dire immobiliser à la banque plus d'un milliard d'euros, mais c'est pourtant ce qui est demandé dans les autres championnats, en Italie notamment, où la Serie A d'ailleurs a rompu son accord avec le même Mediapro justement, parce qu'il ne pouvait pas donner cette garantie de plus d'un milliard d'euros. Alors, ce que disent aujourd'hui les historiques de l'audiovisuel sportif, c'est que Canal et beIN étaient des vieux compagnons de route. En revanche, Mediapro était un nouveau venu dont il fallait vérifier la fiabilité financière, ce n'est pas faux, mais ça ne fait que confirmer finalement que le foot français fonctionne à la papa, selon les mots d'un député qui suit le dossier de près. Un système qui, je le cite encore, n'était pas fait pour la tempête et qui se retrouve pris dans une tornade.
Emma Sarango, merci. Sa voix, enfin, est profonde et caressante. Fatma Saïd, la nouvelle lumière de la scène lyrique internationale. Cette soprano égyptienne vient d'enregistrer son premier album solo, El Nour. Stéphane Capron est un voyage oriental dans les répertoires français, espagnol et arabe.
L'Orient est le trait d'union de ce premier album. Quand Fatma Saïd chante Ravel, c'est Scheherazade. Quand elle chante Berlioz, c'est Zaïd. Mais elle n'oublie pas sa terre natale en enregistrant pour la première fois un lied du compositeur égyptien Gamal Abdel Rahim.
On n'a pas beaucoup de compositeurs qui ont écrit la musique classique. Il a écrit une chanson inspirée par le style de lied comme Schumann et Schubert et Brahms et Debussy. C'est très spécial dans le monde arabe d'avoir un compositeur qui écrit la musique classique dans cette manière.
Dans cet album, il y a aussi du flamenco et des chants traditionnels arabes.
Il y avait beaucoup d'inspiration et il y avait des éléments complètement différents qui sont venus bien avec la musique arabe, avec ma voix très classique, avec le piano très jazz, avec les instruments très arabes, mais les musiciens qui les jouent sont de jazz. C'était cette combination de choses qui a rendu cette partie de musique arabe très spéciale pour moi.
Les morceaux de la fin de l'album ont été improvisés en studio avec cet ensemble instrumental inédit. Ils donnent de la spontanéité et de l'éclat à la voix de Fatma Saïd.
Fatma Saïd
Al-Nour,
c'est magnifique, elle chantera ce soir du Brahms et du Wagner, autre répertoire, en Seine-et-Marne, au théâtre Hors les Murs de Sénart, sachez-le.
Merci Florence Paracuello. Stéphanie Fromentin, tout de suite.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Le ciel est encore gris et humide, Stéphanie.
C'est ça, la dépression qui se situe sur le golfe de Gênes apporte encore ce matin de l'instabilité et des averses orageuses sur la Corse. Du Grand Est au Massif central et le nord des Alpes, la grisaille est généralisée, les averses éparses et puis ça floconne sur les massifs autour de 1300 mètres. En allant vers l'ouest, la masse d'air s'assèche, il reste beaucoup de nuages des Hauts-de-France au Massif central en passant par le bassin parisien, même si les rayons du soleil auront du mal à percer la couche nuageuse. Mais encore plus à l'ouest, ces rayons parviennent en journée après dissipation des brouillards, notamment matinaux dans le centre Bretagne, sur l'élan, la Gironde et jusqu'au Béarn à percer. Mais la visibilité là-bas ce matin est assez restreinte. Le pourtour méditerranéen bénéficie, lui, d'une belle journée ensoleillée au prix d'un mistral et d'une tramontane qui souffle encore par rafale de 70 à 80 km par heure.
Ah, et Mercure est en petite forme hein, pour la saison.
Bah oui, il stagne toujours bien en dessous des normales. Au réveil, il grimpe difficilement jusqu'à 1 à 8 degrés au nord avec des gelées localement possibles en Normandie. Il est un peu plus vaillant au sud avec 3 à 11 degrés. Cet après-midi, il stationne entre 10 et 15 degrés en général, 10 à Aurillac, 15 à Lorient et Biarritz.
Merci Stéphanie Fromentin.